Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous. C'est d'abord un grand merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreuses, nombreux à nous écouter chaque samedi de 10h à 11h pour ce débat des grandes voix historiques d'Europe 1. J'ai nommé Gérard Carrérou, Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Sébastien.
Votre expertise pour analyser le monde qui change. Avec cette semaine, au sommaire, les leaders de la gauche réunis ce matin à Paris. Objectif 2022.
Je pense qu'il serait criminel pour la gauche de ne pas se rassembler.
L'union de la gauche est-elle une chimère? Mais au-delà, la droite dispersée, version puzzle. La République En Marche qui n'est toujours pas un parti fédérateur. Le RN qui est une marque mais avec toujours moins de militants. 2022 annonce-t-elle la débâcle des partis traditionnels? Deuxième débat, le cap symbolique des 100 000 morts du Covid franchis en France cette semaine et un calendrier du déconfinement prudent.
Cette troisième vague est loin d'être terminée.
Les terrasses et les musées seront-ils ouverts le 15 mai? Le gouvernement et Emmanuel Macron jouent gros. Et puis, troisième débat, Éric Dupond-Moretti était ce matin sur Europe 1 pour évoquer notamment la réforme des cours d'assises.
Mais non seulement, bien sûr, je maintiens la cour traditionnelle, mais je lui redonne de la vitalité.
On parlera de sa réforme de la justice, de la suppression des jurys populaires, mais aussi du procès du meurtrier de Sarah Halimi qui n'aura pas lieu. Irresponsabilité pénale du meurtrier et déni de justice, selon la défense. Vous nous direz ce que vous en pensez, les grandes voix. Voici le programme. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Le débat des grandes voix, c'est parti. Et si on jouait ce matin les grandes voix au jeu des sept familles? Dans la famille de la gauche, je voudrais les socialistes, les écologistes, les communistes, les insoumis. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont tous là, ou presque, réunis depuis quelques minutes maintenant dans un hôtel du 19e arrondissement, dans une pièce à l'abri des caméras. Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Benoît Hamon, Éric Coquerel ou encore Olivier Faure, le premier secrétaire du PS qui était l'invité politique d'Europe 1 ce matin. Et voici ce qu'il attend de cette réunion.
Je veux que ce soit quelqu'un qui incarne cet ensemble-là, qui dise ce que je vais faire pendant les 5 prochaines années, un contrat de coalition, un accord de gouvernement avec des gens qui sont prêts à gouverner ensemble. Voilà ce que je souhaite. Qu'on en finisse avec ce bal des égos qui est insupportable et qui finalement rend tellement pessimiste notre pays, qui a tellement le sentiment que cette gauche ne sert plus à rien.
Michel Cotta, est-ce que cette réunion va suffire à prouver que la gauche ne sert plus à rien ?
Naturellement non, parce que ce n'est pas en une réunion qu'on arrivera à ça, mais il faut quand même noter que ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, c'est Jadot qui a pris l'initiative. Ce n'est pas le Parti Socialiste, ça n'est pas les écologistes en tant que tels, c'est Jadot tout seul qui ne consent pas à
initiative personnelle.
Initiative personnelle, mais qui n'est pas désigné par les siens, pas encore désigné par les siens, puisqu'il a suffi qu'ils mettent un nez dehors pour qu'immédiatement Éric Piolle ou Julien Bayou disent « Oh là là, pas de hold-up sur l'Union ». Donc on voit bien que c'est sa volonté seule. Est-ce qu'il sera capable d'imposer sa volonté aux Verts qui sont divisés?
Est-ce qu'il sera capable
de convaincre le Parti Socialiste et notamment Anne Hidalgo ou Olivier Faure que c'est avec lui qu'il faut s'unir? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il dira Jean-Luc Mélenchon? On voit bien que c'est les trois problèmes auxquels il se heurte ce matin pour la première fois.
Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas présent puisqu'il est en Amérique du Sud, qui a envoyé Éric Coquerel et qui dit « Moi, je veux juste un pacte de non-agression ». Ça sert justement à ça, uniquement à cela, cette réunion, Charles Villeneuve?
Moi, je pense que c'est le poids des électeurs, d'abord de gauche, qui veulent cette union. Et puis, Jadot a profité aussi de son très beau score aux élections européennes pour provoquer cette réunion. Moi, je la trouve un peu tardive. D'ailleurs, Michel Cotta le soulignait. Vous savez, François Mitterrand, dès qu'il s'est emparé du Parti Socialiste en 1969, a commencé à construire le programme commun. Et il y est parvenu en 1981. Bon. Et donc, il a pris du temps. Il aurait fallu commencer beaucoup plus tôt. Il ne faut pas être péremptoire et se dire que de toute façon, que rien ne sortira de cette réunion. C'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord sur l'essentiel, pas d'accord sur la vision de la France, pas d'accord sur l'économie, pas d'accord sur les valeurs de la République par rapport notamment à la question de la laïcité. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel, c'est difficile de trouver un candidat commun.
Pour ajouter l'Europe.
Mais il faut commencer, parce que c'est vrai que ça peut produire quelque chose.
Alors, est-ce que Gérard Carrérou...
Oui, bah moi vous... je vais être péremptoire, parce que Charles dit qu'il ne faut pas être péremptoire. Je vais être péremptoire. Je me suis demandé, je me disais, au fond, une réunion comme ça, ils vont tous y aller, ça va être du blabla pendant 2 heures ou 3 heures, etc. Et qu'est-ce qu'il en sortira? Et puis je me suis cherché un petit peu dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui peut en sortir? Je me suis souvenu d'une phrase qui m'avait frappé à l'époque, qui n'a rien à voir, vous allez voir que ça n'a rien à voir, mais... Quand Allez-y. Le ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, qui s'appelait Claude Cheysson à l'époque, il y a un coup d'État en Pologne qui institue le maréchal Jaruzelski. Et Europe 1 interroge le maréchal, Claude Cheysson, et lui dit « Monsieur le ministre des Relations extérieures, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que la France va faire ?» Et Cheysson, après 3 secondes, où il ne dit rien, dit « Évidemment rien. Évidemment rien. » Eh bien, cette réunion... Elle me fait penser à ça. Que va-t-il en sortir? Évidemment, rien. C'est du cinéma. Alors, Charles disait pour les électeurs, bien sûr, les électeurs de la gauche, depuis l'époque de la gauche unie, ils ont une nostalgie. Donc, il faut de temps en temps leur donner un peu les attributs de l'unité comme si elle existait encore. Elle n'existe plus, c'est un vieux rêve. Mais là, il ne va rien sortir puisqu'il y a déjà 3 candidats. Et ces 3 candidats ne renonceront pas. Et il y en aura peut-être un 4e. Donc, de toute façon, c'est du cinéma pour montrer qu'on fait quelque chose en ne faisant rien.
Est-ce que cette pluralité de candidats, même s'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon officiellement déclaré jusqu'à présent et qui n'est pas là ce matin, on se souvient, vous faisiez référence...
Il y a aussi le candidat communiste
qui doit être encore adoubé par les militants. Mais en effet, il a été nommé par le parti.
Il est déjà parti en campagne.
Absolument. Vous faisiez référence au passé avec votre expérience politique, Catherine Ney. François Mitterrand, quand il a gagné en 81, il y avait plusieurs candidats à gauche, mais il avait déjà été candidat
avant. Il avait déjà été battu en 74.
Sauf qu'il était candidat unique à cette époque. Donc qu'est-ce que... Voilà, en 65 et 74.
On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Oui. Bon, et puis je vais vous dire, quand François Mitterrand était candidat, sa candidature n'était pas disputée.
Elle était naturelle.
Bon, elle était naturelle parce que... Enfin, il l'a
imposé. Malgré Michel Rocard.
Oui, à part Michel Rocard qui s'est toujours planté. Mais bon, enfin bref, il a fait ce qu'il a voulu. Et il a fini par l'emporter. Et a duré 14 ans à l'Élysée, ce qui est un record absolu. Bon, on n'en est plus là du tout aujourd'hui.
Mais on ne peut pas comparer Blanche-Neige et les 7 nains.
Voilà, exactement. Non, mais pour Jadot, il fait une opération politique, parce qu'il dit, voilà, d'abord, vous voyez, c'est un grand type qu'on a vu jeudi. Moi, je me suis dit, on va voir un homme nouveau qui va peut-être drainer les auditeurs ou les téléspectateurs derrière lui. Ça a été un bide, voilà. D'ailleurs, l'émission a été très mauvaise, parce qu'il a dialogué avec Bruno Le Maire, et ils se sont marchés dessus en parlant. On ne comprenait absolument rien à ce qu'il disait, donc c'est raté. Mais enfin, il existe. Il a créé cette réunion dont il ne sortira rien aujourd'hui. Bon, mais c'est vrai que là...
Peut-être un agenda.
Peut-être un agenda, et peut-être même, il voulait dire, 10 sujets sur lesquels on pourrait travailler, sur des sujets. Bon, mais l'intéressé qui est sûr, qui veut absolument y aller, C'est Jean-Luc Mélenchon qui, dès qu'il a du vague à l'âme, part en Amérique latine. Pendant un temps, quand il avait du cafard, il allait au Venezuela voir Hugo Chavez qui gagnait. Maintenant, il n'en parle plus parce que c'est un tel désastre, Hugo Chavez, comme le pays est à terre. Alors maintenant, il est remonté un peu plus
haut.
Il est mort, mais son Maduro et Maduro, son successeur, n'est pas mieux et le pays est complètement par terre. Alors maintenant, il va à Quito, dans la capitale de l'Équateur, parce qu'il connaît le président qui vient d'être élu, d'ailleurs, pour comme s'il voulait profiter de sa victoire pour être auprès de lui. Et puis en juillet, il y a deux ans, quand il pensait que la justice pourrait le condamner, parce qu'il avait secoué des policiers indûment, eh bien, il se comparait à Lula qu'il avait été voir en prison. Donc il y a cette espèce de romantisme.
Ah, Lula, remarquez,
il en est sorti. Lula en est sorti. Bon, voilà. Mais Mélenchon n'a pas été mis en prison. Donc il y a cette espèce de romantisme-là qui n'appartient qu'à lui. Et en tous les cas, il veut être candidat, il se rend candidat, il ne lâchera pas. Il a besoin, pour être candidat, d'avoir le soutien des élus communistes pour avoir ses parrainages. Est-ce que Fabien Roussel, qu'il soutient, va les lui donner? Fabien Roussel a dit que oui. Est-ce que le candidat communiste sera candidat alors qu'il y a 2 à 3% de gens qui veulent bien voter pour le Parti communiste? Vous voyez, tout ça, moi je suis sûre d'une seule chose, c'est que Mélenchon, de toute façon, sera candidat alors, et qu'on ne peut espérer éventuellement qu'un accord entre les écologistes et le PS.
Alors, c'est tout à fait l'analyse de Catherine est tout à fait vraie, aucune force ne poussera Mélenchon à s'en aller. Et alors, je voulais simplement vous citer, parce qu'il est allé à l'Équateur pour soutenir son candidat qui a été malheureux. Et le seul tweet qu'il a envoyé de là-bas, alors que tous ces hommes étaient en train justement de préparer cette réunion, il a analysé l'échec du candidat équatorien en disant « Les écologistes n'ont pas voté pour lui. Il a perdu 1,5 million de voix. La droite a gagné. » C'est-à-dire que c'était vraiment... Un message adressé. Alors, pour le reste, quand même, si on veut chercher des points de comparaison et des points de convergence entre les socialistes et les Verts, on peut quand même les trouver. Oui. D'ailleurs, il y a un texte de Benoît Hamon cette semaine qui n'était pas à l'époque arrivé à fédérer quoi que ce soit. En tout cas, qui donne un certain nombre de thèmes sur lesquels il pourrait très bien être d'accord. Ça veut dire que ce n'est pas sur les programmes que ça se discute, c'est sur les hommes.
On continue
Est-ce que je peux prendre le sillage de Michel? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au fond c'est du baratin. Aujourd'hui, l'alliance ou pas l'alliance des partis ou des particules ou des mini-partis. Ce qui compte, effectivement, il n'y avait qu'un chemin possible. Il y a peut-être encore, d'ailleurs. Mais ce chemin possible pour la gauche, c'était un candidat commun, socialiste, écologiste, en fonction du rapport de force de la dernière fois des écologistes dans les villes, etc. C'était Hidalgo qui, normalement, devait l'incarner. Il semblerait qu'elle ait plutôt mal commencé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se relever. Mais pour l'instant, ce chemin, à mon avis, il est
vraiment... Et puis aussi, les Verts veulent ils sont dominants aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'ils veulent imposer leur loi et pas être numéro 2.
Alors, la gauche divisée, la droite aussi, la République En Marche qui n'est pas vraiment un parti, le RN incarné mais avec de moins en moins de militants, on continue à parler de cette recomposition politique et de la campagne de 2022 en période Covid qui s'annonce sans précédent dans un instant. Tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Avec le débat des grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney, Michel Cotta, jusqu'à 11h, on parle de la présidentielle 2022. C'est dans un an avec cette réunion de la gauche. On en parlait dans la première partie de ce débat. On va parler maintenant de la droite. Là encore, il y a un problème d'incarnation, Charles Villeneuve.
Écoutez, le problème de la droite, il est double. Ils ont un problème de stratégie politique par rapport à Macron et par rapport à Marine Le Pen. Vous avez un sondage, une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, il y a 10 jours à peu près, par Elab, qui montre bien que 42% des électeurs de François Fillon ont confiance en Emmanuel Macron. Et de la même manière, 37% de sympathisants de droite jugent que Marine Le Pen a les qualités pour être présidente de la République. C'est l'un des problèmes qui est posé. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est mon avis en tout cas, les Républicains n'ont pas fait leur deuil du retrait de Nicolas Sarkozy. C'est une droite qui est toujours sous influence. Nicolas Sarkozy pèse et compte encore au sein des Républicains. Donc, les difficultés des Républicains, c'est le désordre.
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a réussi son pari en 2017 en faisant exploser les codes et la gauche et la droite, et qu'aujourd'hui, le duel Macron-Le Pen est inéluctable, Gérard Carrérou ?
Écoutez, je pensais qu'en 4 ans, les choses pouvaient bouger depuis l'élection présidentielle de 2017, élection caractérisée par le fait qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus vraiment de droite unie, et qu'on a donc eu Macron qui a surgi. Ça me faisait penser un peu à Napoléon, cette année de bicentenaire, où Napoléon dirait « ma gauche est enfoncée, ma droite est éclatée, mon centre est inexistant ou évanescent, j'attaque ». Oui, mais sauf qu'il n'y a personne pour attaquer.
Ça, c'est 14-18.
Oui, et il n'y a personne pour... Oui, mais c'est un peu l'idée. Oui. Or, il n'y a pas...
C'est Foch.
Il faut quelqu'un qui, tout d'un coup, 604. Puisse sublimer, dépasser, comme on dit, transcender ces coupures. Ces deux électorats dont Charles vient de parler, la droite, elle est la droite. On peut presque dire ça. Majoritaire aujourd'hui dans le pays, probablement. Sociologiquement, elle est majoritaire. Politiquement, elle ne peut pas gagner parce qu'elle est coupée en deux. En gros, c'est ça l'équation. Et s'il n'y a
donc
pas...
Donc tu es d'accord avec moi.
Mais c'est bien pour ça que je te rappelle ce que tu viens de dire. C'est bien pour ça que ne pouvant pas, pour l'instant, tant qu'elle ne trouvera pas un homme qui soit acceptable,
voilà,
pour les deux morceaux, eh bien, elle perdra. Alors, et elle perdra probablement le prochain coup.
Pas d'incarnation à droite, naturelle. D'accord. Pas d'incarnation à gauche, naturelle. En revanche, si on se déplace le curseur encore plus à droite, du côté du Rassemblement national, il y a un visage, c'est celui de Marine Le Pen.
Oui,
là, il y a une marque qui existe.
Oui, et il y a une marque, c'est vrai. Mais quand on, là aussi, quand on regarde un peu les études, il y a le Front National, le mouvement, le Rassemblement National reste un parti tout à fait à droite, implanté, très bien implanté, et bizarrement, son chef de file, c'est-à-dire Marine Le Pen, est moins considéré que le parti lui-même. Donc évidemment, ça ouvre la perspective de peut-être lutte au sommet éventuelle, encore que on les voit pas venir, mais en tout cas, ça affaiblit un peu la personnalité de Marine Le Pen face à l'analyse dont tu parlais, Charles, c'est-à-dire une moitié étant favorable, la moitié de la droite étant favorable quand même au Rassemblement National, et l'autre moitié très tentée par Emmanuel Macron. Donc, l'histoire de Marine Le Pen, et c'est très intéressant, parce qu'elle paye quand même toujours son débat raté.
De 2017,
de moins en moins.
En revanche, elle a, au contraire, fait de son mouvement un mouvement très important et même capital dans les élections qui viendront.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir si elle a des élus régionales. Parce que là, au municipal, elle a perdu des élus plus qu'elle n'en a gagné. Et personne ne voulait faire de liste du Rassemblement National dans les petites villes. Parce que dans les petites villes, c'était encore pas chic d'être sur une liste du Rassemblement National. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle était l'autre jour devant la presse parlementaire à l'Assemblée nationale. Elle parle, elle dit maintenant quand je serai présidente. Parce qu'elle croit qu'elle peut battre Macron. Elle se promène dans le pays et elle sent qu'il y a une détestation du président sortant, qui, il faut dire, a accumulé les ennuis depuis 5 ans et qui ne laissera pas de bons souvenirs parce que, à cause de ça, c'est une campagne difficile, quoi. Mais aussi, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'en cas de duel au second tour, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo ne parviendraient pas à la battre.
Alors, donc match nul, gagnerait. Selon un dernier sondage IFOP entre Hidalgo et Le Pen de la semaine dernière. Et en revanche, en effet, 60-40 face à Mélenchon et Jadot qui perdra également.
Il y a une remarque, parce que là, finalement, on est tous d'accord pour dire que les grands partis, de toute façon, ne se sont pas remis de la défaite de 2017. Mais il y a aussi deux grands partis qui restent structurellement très forts sur le plan territorial. C'est le Parti socialiste et ce sont les Républicains qui tiennent beaucoup de villes moyennes qui ont perdu un certain nombre de grandes villes au profit des écologistes, c'est vrai, mais parce qu'il y a une abstention, il y a eu une abstention considérable. Bon, et c'est vrai que Catherine a raison de souligner qu'au régional, on va pouvoir se compter. Or, ce qui s'annonce pour La République en marche n'est pas très, élogieux.
Sous la Ve République, il me semble que toujours le candidat est plus important que le parti qui le soutient. Ce qui est je parle de la présidentielle.
Oui,
or, effectivement, la grande faiblesse de Marine Le Pen, on peut prendre le sujet comme on veut, la grande faiblesse de Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Oui. Et en même temps, elle est le leader et elle ne pourra pas être contournée, en tout cas pas cette élection-là. Donc, c'est pour ça que je me dis, on va vers un duel et le duel sera perdu par le Front National.
Un mot de conclusion et on change de débat.
Il y a des électeurs, il y a des partis, des formations dont on parle, et puis il y a les électeurs. Or, de plus en plus de gens s'accordent à dire que maintenant les électeurs se sentent très libres vis-à-vis des leaders de leur parti, beaucoup plus libres, que l'électorat est volatile. Par conséquent, l'issue du débat, il faut vraiment être très 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 prudent.
Merci les grandes voix.
C'est pour ça. Tu as raison, Michel, parce que nous sommes dans une société atomisée, une société qui a beaucoup évolué avec les réseaux sociaux et qui, finalement, se penche en permanence sur ses portables, sur son iPad, etc., toutes les informations. C'est pour ça que le militantisme a beaucoup faibli, y compris au Rassemblement National.
Oui, qui évoquait 80 000 militants, je crois, en 2016, contre 20 à 25 000 aujourd'hui. Merci les grandes voix. Dans un instant, le deuxième thème de notre débat, la prudence du gouvernement pour le déconfinement, alors que la barre des 100 000 morts du Covid a été franchie cette semaine en France.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
10h29, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 avec le deuxième débat du jour pour les grandes voix. Tenir 4 à 6 semaines, c'est ce qu'Emmanuel Macron demandait aux Français le 1er mars. On fait les comptes ? Ça voulait dire entre le 1er et le 15 avril, on est le 17, voilà, le 17 avril. Et le déconfinement semble encore loin, nouvel horizon désormais fixé par le chef de l'État. Le 15 mai, et encore, les ministres jouent la carte de la prudence.
Le président de la République l'a dit dans son allocution il y a 15 jours. Il a parlé d'un début de réouverture à la mi-mai, en commençant par certains lieux de culture et certaines terrasses. Ensuite, les choses se feront progressivement. Mais aujourd'hui, l'heure est évidemment à la mobilisation et à la prudence.
Certains lieux de culture, certaines terrasses, pas toutes, dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Et dans certaines régions, alors cet allègement progressif des mesures toutes les 3 semaines, le scénario, Gérard Carrérou, il est encore bien flou quand même.
Oui, parce qu'on a un conflit tragique, si j'ose dire, entre la volonté et la réalité. La volonté, on la sent, celle de M. Macron, du chef de l'État, elle est vraiment de franchir l'obstacle et de pouvoir dire aux Français, ça y est, on rouvre le pays et on peut parler d'autre chose, etc. Il en rêve et il l'a appliqué, parfois avec courage, en prenant ce pari, parfois avec du résultat, parfois avec moins de résultat. Mais là, on sentait bien hier, il suffisait d'écouter les réactions d'hier, on sentait bien que lui est toujours sur cette ligne-là, mais qu'autour de lui, la garde de fer, c'est-à-dire le Premier ministre d'un côté, Véran de l'autre, Attal le porte-parole, les trois sont arc-boutés sur le frein, ou le frein à main, si vous voulez, peut-être le frein à main, parce que le frein principal, ce ne peut être que le chef de l'État. Et le chef de l'État ne veut pas arrêter. Mais les chiffres, j'entendais sur Europe ce matin, les chiffres, on dit qu'ils sont plutôt optimistes. Il y en a un ou deux qui sont un peu bouffés d'espoir. Il y en a deux, trois autres qui sont toujours inquiétants.
On toujours inquiétants.
Il y a les 100 000 morts, mais il n'y a pas que les 100 000 morts. Les 6 000 en réa, le pic, dont on nous dit maintenant qu'il sera quand même dans 8 jours, 10 jours, ça veut dire la fin du mois. Et est-ce qu'on peut imaginer, je termine juste là-dessus, est-ce qu'on peut imaginer de rouvrir alors que le pic est toujours haut?
Est-ce
très
que ça veut
haut.
Dire qu'Emmanuel Macron est pris au piège de son propre calendrier?
Oui, manifestement.
Et qu'il joue gros pour son avenir en 2022 là-dessus?
Je suis d'accord avec Gérard, c'est que sur le plan de la volonté, on l'a vu, il ne voulait plus déconfiner, confiner de manière dure. Et il a tenu ce pari à partir du moment où il l'a pris en janvier, rappelons-nous. Bon, mais cela étant, il y a deux variables. Il y a la volonté, puis il y a la réalité. La deuxième variable de la réalité, c'est que les variants sont en train de galoper quasiment dans plusieurs départements. Maintenant, il était surtout anglais, il est brésilien. Maintenant, il commence à être brésilien. On ne sait rien sur le brésilien. Parce que moi, j'écoute, si vous voulez...
On peut même dire les Brésiliens, il y a plusieurs variants brésiliens.
Oui, enfin, le Brésilien qui est rentré, il est rentré de Manaus, qui est là où, d'ailleurs, il y a un très grand opéra au Brésil.
Joli pays.
Par l'aéroport de Francfort, et il est arrivé en Moselle. C'est par là que, semble-t-il, le variant brésilien a suivi son itinéraire de pénétration. Or, ces deux variants, c'est-à-dire la circulation du virus et l'encombrement des hôpitaux, ne varient pas beaucoup. Alors le pic, comme le disait Gérard, est prévu quasiment dans 15 jours. Dans 15 jours, c'est fin avril. Il ne restera que 15 jours pour, de toute façon, commencer à déconfiner et à ouvrir. Moi, j'y crois très peu.
Thierry Breton, le commissaire, nous promet l'immunité collective pas avant le 30 juillet. Or, quels sont les pays qui l'ont pour l'instant? C'est Israël qui a réouvert les bars, les restaurants et pour lequel ça a l'air de bien se passer. Et l'Angleterre qui commence avec une estimation à 72% de l'immunité collective. D'ailleurs, ça va être très intéressant de voir si en Angleterre, eh bien, ça reflambe ou pas, puisqu'il réouvre tout, presque tout.
Vous parliez de Thierry Breton, il était invité d'Europe 1 cette semaine.
Ce qui est intéressant, oui, ce qui est à mon avis,
je vous donne la parole, on l'écoute juste après, comme ça vous allez pouvoir réagir, Michel.
Mon objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions livrer à l'ensemble des États membres, dont la France évidemment, de quoi vacciner au moins 70% de la population adulte. Attention, double dose, c'est-à-dire totalement vaccinée.
Thierry Breton, monsieur vaccin européen, qui est assez optimiste en fait finalement. Nous dire cet été, la majorité
de la population
sera vaccinée.
Il est optimiste, mais moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est le débat sur le calendrier. Franchement, c'est un débat dont on pourrait s'en passer parce qu'on n'en sait rien. Voilà, c'est tout.
Oui, mais on en a besoin.
Le chef de l'État a mis des
On a besoin, tu as raison, on a besoin d'une façon de se fixer un objectif.
Oui,
mais
nous avons besoin de perspectives.
Si l'objectif est toujours reculé, ça crée d'être pire que le contraire. Et ensuite, je voulais dire que la comparaison avec l'Angleterre est complètement faussée. C'est pas parce qu'on voit des types buvant des bières à la terrasse des pubs, ils sont vaccinés. Et oui, majoritairement.
Oui, mais
et nous, on commence
la
vaccination.
On
va très vite, d'ailleurs. Bon, 12 millions, c'est très bien. Ça n'est pas suffisant. On le sait. Par conséquent, moi, je reste très, très, très sceptique sur l'ouverture le 15 mai.
C'est pour ça, quand tu dis, Gérard, le président en a la volonté, moi, je dirais, il en a le désir.
Oui.
Et ce sont ses ministres. Mais c'est très bien d'avoir un désir et ben, pour faire plaisir à tout le monde et pour qu'on revienne à la vie. Mais la volonté, il ne l'aura, il ne peut l'avoir que si c'est possible. Ah, oui.
Bien sûr,
oui,
mais comme je l'ai dit, c'est très bien la vaccination. Moi, je trouve qu'on se berlure un peu en France avec nos chiffres. 12 millions, ça apparaît beaucoup. 12 millions dans un pays de 60... Alors, enlevons les enfants.
Sur
67 millions, il reste 45 millions, ou entre 45
oui,
et 50 millions.
Ça va vite quand même.
Mais
ça
12
va vite.
Millions, ça fait même pas un quart.
On est sur 17% à peu près.
On est sur les chiffres européens. On est sur les chiffres européens.
C'est bien le dit Michel. Là, ce sont les chiffres européens.
Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Michel, c'est sur le fait qu'on s'inspire de l'Angleterre. Au contraire, cette inspiration, c'est l'espoir, parce qu'on s'aperçoit que ce pari risqué pris par Boris Johnson a payé, c'est-à-dire a vacciné à toute berzingue, si j'ose dire, c'est-à-dire à toute vitesse.
Et bon, avec une dose.
Et c'est un espoir parce que, bien sûr, avec une dose. C'est pour ça que la première dose est importante avant de compter la deuxième dose. Et c'est un espoir en ce sens où, si on accélère vraiment et si on a évidemment le matériel pour le faire, la vaccination, eh ben, on peut s'en sortir. En tout cas, en juillet, selon le Thierry Breton, qui le dit toujours avec beaucoup d'assurance, je ne vais pas lui faire un
non, mais je parlais du 15 mai. Je ne parlais pas de juillet, je parlais du 15 mai seulement. Hein.
À propos de doses, les grandes voix, on a entendu cette semaine le patron de Pfizer dire qu'il faudrait peut-être une troisième dose au bout de 6 mois,
bien
à
sûr,
12 mois, voire tous les ans par la suite.
Mais parce que Sébastien, ça annonce la vaccination annuelle comme celle de la grippe. Et c'est l'information importante pour moi, de ces dernières 48 heures.
Avec la question de savoir, en corollaire, s'il y aura suffisamment de vaccins, puisqu'on sait qu'AstraZeneca est défié par l'ensemble des Français, une majorité de Français en tous les cas, et que Agnès Pannier-Runacher a d'ailleurs dit qu'il ne renouvellerait peut-être pas les contrats pour l'année prochaine.
Le fait du jour, hier, je ne sais plus à quel moment de la journée, quand la ministre en charge
de l'industrie
dit qu'effectivement, pour les prochaines... Parce que déjà, on peut penser aux commandes de vaccins pour 2022, et que l'Europe ne choisira pas ou ne choisirait pas au conditionnel AstraZeneca, ça veut dire out AstraZeneca. Dans le même temps, vous avez le Danemark l'a décidé. Vous avez de l'autre côté Johnson & Johnson qui est encalaminé aux États-Unis. On ne sait pas quand ça va ressortir.
Donc, décision de l'agence
on a
du
une bagnole
mardi,
à quatre
européen.
Vaccins, si vous voulez, dans laquelle il y en a déjà deux qui sont handicapés. Il en reste deux. C'est pour ça que... Moi, je trouve qu'on est faussement optimiste sur les vaccins. Quand je pense que le grand stade, le week-end dernier, n'a pas vacciné, il faut quand même s'interroger. On n'avait pas assez de produits.
Vous avez vu que Mme Merkel s'est fait vacciner avec l'AstraZeneca.
Absolument, première dose cette semaine. Merci les grandes voix. Dans un instant, le troisième thème du jour, jusqu'à 11h. On va parler justice, la grande réforme pénale souhaitée par Éric Dupond-Moretti. Et puis le meurtrier de la retraitée juive, Sarah Halimi, qui ne sera pas jugé car irresponsable pénalement. Vous nous direz si vous pensez que c'est un déni de justice ou non. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec les grandes voix d'Europe 1, Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Avec cette affaire qui avait ému la France entière il y a 4 ans, le 4 avril 2017, Sarah Halimi, cette retraitée juive de 64 ans, défenestrée par son voisin dans sa cour d'immeuble du quartier de Belleville à Paris. Son meurtrier, Kobili Traoré, son voisin, ne sera pas jugé. C'est ce qu'a confirmé cette semaine la Cour de cassation, car il est irresponsable pénalement. Ça a suscité beaucoup de réactions. Michel Cotta, est-ce que vous comprenez, vous, cette décision de justice ?
D'abord, il faut quand même rappeler comment ça s'est passé. Hein. On a oublié quand même que un jeune homme, Kabili Traoré, est entré dans la maison d'une d'une dame juive.
Il connaissait depuis très longtemps, il savait donc qu'elle était juive.
Il citait des versets coraniques, après quoi il l'a fichu par la fenêtre en disant « Allah ». Bon, donc moi je veux bien qu'on révise tout ce qu'on veut, qu'on dise qu'il était responsable, mais j'ai trouvé l'analyse du rabbin Raïm Korsia assez intéressante, et assez intéressante pour quand même qu'on s'interroge. Il dit d'abord, soit un meurtre est antisémite, il est donc pensé, soit il est l'œuvre d'un irresponsable, et donc non pensé. Or, il a été reconnu comme antisémite par l'instruction. Donc, je ne vois pas comment un meurtre reconnu comme antisémite par l'instruction peut comme ça, d'un seul coup, et un coup d'expert, être... Bon. Et ensuite,
pas les deux à la fois, c'est ensuite, ce qu'il dit ce matin dans le Figaro.
Pas les deux à la fois. Et ensuite, quant à l'utilisation de la drogue, c'est vrai qu'elle est, elle est un caractère aggravant pour tous les crimes ou tous les actes. Et là, alors, d'un seul coup, elle ne serait pas un caractère aggravant pour un meurtre, pour un meurtre antisémite.
Sauf qu'en droit, la bouffée délirante est due à une prise de drogue. Mais le droit ne distingue pas l'origine du trouble psychique.
Moi, je vous dirais qu'il faudra revoir la définition de la responsabilité pénale.
Écoutez François Molins, qui est quand même procureur général près de la Cour de cassation, qui explique cette décision.
Il faut savoir qu'il y a un grand principe dans le code pénal qui vous dit que... pour être jugé et condamné, il faut avoir son discernement, et que si vous avez des troubles psychiques qui abolissent le discernement, vous êtes irresponsable. Et la loi ne fait pas la différence entre le comportement à l'origine du trouble psychique. Donc, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que trois choses. La première, c'est que je comprends parfaitement l'émotion suscitée par cette affaire que j'ai suivie au niveau du parquet de Paris. J'avais beaucoup bataillé pour que soit retenue la circonstance aggravante d'antisémitisme. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que la Cour de cassation, elle juge en droit. Donc, elle vérifie si la loi a été appliquée.
Charles Villeneuve, il justifie la décision en droit.
Oui, uniquement. En droit. Mais de toute façon, il ne faut pas s'en prendre à la Cour de cassation qui n'a fait que constater les règles de droit. Les anomalies peuvent être, si vous voulez, constatées au niveau de l'instruction. Il y a deux anomalies, c'est que les juges d'instruction, ils sont deux, ont refusé la reconstitution. Ce qui me paraît, d'ailleurs, et pourtant qui était... facilité par la première expertise de Daniel Zaguri, qui est un expert psychiatre extrêmement connu, très excellent expert psychiatre, par la plupart des avocats auxquels j'ai téléphoné, notamment Daniel Soulez-Larivière, etc., qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et Zaguri, du coup, les juges ont demandé à deux autres collèges d'experts d'examiner, évidemment, l'assassin présumé. Assassin présumé, qui de toute façon vraisemblablement a commis son crime avec préméditation. Oui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on parle d'assassinat et pas de meurtrier. Bon, et surtout, il est bien évident qu'il n'a fait que pendant qu'il a assommé cette malheureuse médecin de 64 ans, Madame Sarah Halimi, à coups de portable, et ensuite il a ouvert les fenêtres. Il a crié « Allahu Akbar, regardez comment se suicide une juive ». Et il l'a défenestré. C'est, si vous voulez, toutes ces anomalies constatées et soulignées par les avocats de la défense, notamment de Mme Halimi, qui ont provoqué une émotion considérable dans la communauté.
Gérard Carrérou.
Oui, il n'y a pas de doute pour moi que c'est un épouvantable crime antisémite. Ça, c'est clair. D'ailleurs, bon, ça a été constaté. On dit, effectivement, on a entendu la plus haute autorité, monsieur le procureur Molins, dire, effectivement, il n'y a rien à dire sur la Cour de cassation, elle a appliqué le droit. Oui, c'est vrai. Mais quand le droit dans un pays heurte de plein fouet tous les citoyens, il n'y a pas un Français aujourd'hui, de bonne foi, qui n'est pas écœuré par ce qui s'est décidé, ça veut dire qu'il faut changer le droit. Il aura donc nécessité de changer le droit. Mais en attendant...
Ça, c'est au législateur de le
faire.
Oui,
c'est au législateur, bien sûr. Mais en attendant... On ne s'interroge pas sur le sort de ce monsieur Traoré. Ce monsieur Traoré, certains font semblant, de croire qu'il va rester dans un asile psychiatrique ou dans une maison fermée pendant 20 ans. C'est pas vrai. Francis Piner, qui est un de nos meilleurs avocats pénalistes, l'a expliqué très bien. Il peut aujourd'hui sortir, aujourd'hui, dans 5 jours ou dans 15 jours, il sortira. Il n'y a aucun empêchement à sa libération. Ce monsieur n'est en aucune manière retenu quelque part en prison, pas en prison, on l'a vu, ni au jugement, on l'a vu, mais non plus dans un asile psychiatrique. C'est quand même invraisemblable d'imaginer que dans nos rues, on peut avoir un monsieur Traoré qui se balade en liberté après ce qu'il a fait. Alors, moi, je ne peux pas l'accepter.
Moi, quand je dis, quand on dit les juges ne font qu'appliquer la loi, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on voit dans beaucoup de procès, et cela politique, que les lois, parce qu'elles sont mal foutues, eh bien que les juges, ils les appliquent bien au-delà de ce qu'il y a dans la loi et qu'ils sont même des créateurs de normes qui ne sont pas toujours dans l'esprit des institutions. Et là, qu'il y ait des juges dans leur tir d'ivoire qui ne tiennent pas compte du contexte social. Parce qu'aujourd'hui, en France, les juifs ont peur parce que depuis des années, il y a eu des meurtres antisémites qui n'ont pas tellement révolté l'opinion, qui ne s'est pas tellement manifesté. Mais depuis Ilan Halimi, le jeune homme qui a été tué par le gang des barbares, Mohamed Merah qui s'est attaqué à des jeunes enfants dans des écoles, dans une école juive. Il y a Hamedi Koulibaly dans l'expression, dans les épiceries cachères. Et c'est vrai que là, à l'époque, c'était Manuel Valls qui l'avait dit, on était étonnés que les Français ne descendent pas dans les rues pour s'indigner de ce qui arrivait, des malheurs qui étaient ont frappé les Juifs.
On continue à parler de
non,
ce débat.
Il suffit de se bourrer de cannabis pour tuer n'importe qui et pour être irresponsable. C'est sûr que ça va être un protocole adapté par tout le monde.
Et on s'interroge sur ce changement de loi à venir ou non, et ainsi que la réforme de la justice proposée par Éric Dupond-Moretti, juste après une dernière pause. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
Dernière ligne droite pour ce débat des grandes voix consacrées à la réforme pénale maintenant voulue par Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux a présenté cette semaine en Conseil des ministres son projet de loi. Il était ce matin sur Europe 1. Voici ce qu'il disait d'ailleurs pour justifier sa réforme des cours d'assises.
J'y étais totalement opposé parce que ma crainte c'était que la cour criminelle soit au fond la chronique annoncée de la mort de la cour d'assises traditionnelle. Je suis entré au gouvernement. J'ai obtenu, de la part du président de la République, des assurances. Il est attaché au jury populaire comme je le suis.
Il a changé d'avis, Éric Dupond-Moretti, Charles Villeneuve. Il n'y aura plus de jury populaire, mais uniquement pour certaines affaires. Hein. C'est pour celles qui seront jugées en première instance pour des crimes punis entre 15 et 20 ans. Pour les crimes les plus graves, les jurés populaires seront maintenus. Ça va dans le sens objectif, à savoir désengorger les tribunaux?
Moi, je le crois. Si vous voulez, j'ai assisté à beaucoup de procès, notamment des cours d'assises contre le terrorisme, où il n'y a que des jurés professionnels. Et lorsque les faits sont établis, lorsqu'il n'y a pas de doute, etc., les jurés professionnels ne sont pas plus bêtes que les jurés populaires. Ils adaptent très bien le droit et les condamnations sont parfaitement mesurées. Donc, je suis pour cette réforme. Alors, absolument. Par contre, en France, pour constituer un jury populaire, dont les jurés sont tirés au sort sur une liste électorale, il faut une journée pour savoir s'ils ont une idée préconçue. Aux États-Unis, au minimum, ça dure une semaine et très souvent plus d'un mois. C'est-à-dire qu'il y a de véritables enquêtes sur le choix, si vous voulez, des jurés populaires pour éviter qu'ils aient des idées préconçues sur le crime qu'ils vont juger.
Alors ça, c'est l'un des aspects de la réforme voulue par Éric Dupond-Moretti, mais il y a plein d'autres aspects. L'autorisation de filmer des audiences, limiter la durée des enquêtes criminelles à 2 ans.
Et ça, c'est une réponse au procès Sarkozy.
Et ça fait beaucoup de bruit, ça fait réagir du côté des magistrats et des avocats qui ne sont pas très chauds pour faire un doux euphémisme.
C'est surtout les magistrats qui sont quand même là les premiers à protester, notamment quand on encadre effectivement l'action préliminaire à 2 ans. Ils auraient préféré 3 ans. Lorsqu'on veut donner un accès facilité, faciliter un dossier à une partie, à quelconque partie prenante, il y a plus la réglementation des fadettes. On voit bien toujours la perspective de l'affaire Sarkozy que c'est les magistrats qui sont les plus qui ont été et qui ont utilisé ces fadettes
et qui ne sont pas punis.
Je trouve que il y a effectivement, je comprends un peu une mauvaise réaction des magistrats qui d'ailleurs a toujours été systématique depuis que Dupond-Moretti a été nommé avec la fameuse tribune du procureur de la Cour de la Cour de la Cassation
de la première présidente de la Cour de Cassation et du procureur général
qui ont immédiatement attaqué.
Ils ont remis en cause la légitimité du gouvernement et de la désignation du garde des Sceaux.
Franchement,
ça ne s'était jamais vu.
Je trouve que cette... moi, j'ai un peu une hésitation sur le jury ou pas le jury sur les cours criminels. Je dois dire que c'est la seule chose sur laquelle j'ai une hésitation. Mais en revanche...
Il faudra le voir fonctionner.
Oui. En revanche, par exemple, la suppression des crédits de remise de peine, je trouve que c'est pas mal.
Oui, pour le reste, est-ce que ça permet de restaurer la confiance des Français dans l'institution judiciaire?
Alors ça, j'en sais rien. Moi, les tribunaux professionnels à la place, j'attends pour voir, je n'ai pas d'option a priori. Par contre, il y a une chose qui, une fois de plus, n'est pas dans le plan et qui devrait l'être, et qui finalement devrait l'être dans les prochaines années, parce que sinon, on va vers des situations épouvantables, c'est le programme de construction de prison. Dans ce pays... on n'a pas construit de prison depuis Albin Chalandon, garde des Sceaux, il y a 35 ans. C'est le dernier ministre de la Justice. Il y en a d'autres qui ont annoncé des plans qui n'ont jamais été réalisés. C'est le cas sous ce quinquennat de M. Macron. Or, la population, depuis M. Chalandon, la population a augmenté de 15 millions en France. Le nombre des condamnés, et le garde des Sceaux disait, on condamne de plus en plus sévèrement. Il y a de plus en plus de gens qui doivent aller en prison. Il n'y a plus de prison. Et du coup, on bricole. On libère à propos de la Covid. On dit, on va en sortir 10 000, comme ça fera de la place, et ainsi de suite. Il faut construire des prisons. Dupond-Moretti est contre. Il avait été contre avant. Il est toujours contre. Mais le pays, lui, est pour.
Catherine Ney.
J'abonde dans le sens de ce que dit Gérard, mais... moi, je veux dire que cette loi du garde des Sceaux, qui a quand même été vite fabriquée, parce qu'il est garde des Sceaux depuis pas très longtemps, qui a repris une partie de la commission Perben, qui avait été lancée par des résultats sur le statut des avocats, sur leur profession, enfin bref, c'était intitulé « Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire », ce qui prouve bien que l'intitulé, c'est qu'on n'était pas du tout confiant dans l'institution judiciaire. Bon. Alors, les magistrats ne sont pas contents à cause de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Les avocats sont moyennement contents et trouvent certains qu'il manque une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'un avocat entre dans une entreprise pour conseiller un patron, il ne peut plus être avocat, il devient simplement juriste. Mais aujourd'hui, dans les grandes entreprises, qui ont de plus en plus affaire aux États-Unis, donc au droit américain, le droit américain a le pouvoir de venir regarder ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a, les secrets de l'entreprise. Et comme les juristes ne sont plus des avocats, ils ont le droit d'ouvrir les dossiers dans lesquels les juristes et le président de la société travaillent. Donc là, il ne l'a pas retenu.
Mais les activités de conseil ne seront pas sacralisées par le secret de la défense.
Et si on veut protéger les entreprises françaises aujourd'hui, qui sont vraiment très harcelées par le droit américain, Ça manque vraiment dans la loi.
Je voudrais revenir un peu sur les prisons, parce que je ne pense pas que la construction des prisons soit le remède à tout.
C'est pas le remède à tout, mais c'est un des remèdes nécessaires.
Beaucoup de gens, moi, quand on voit des gens en prison pour délits de voiture ou pour délits de vitesse, moi, franchement, je trouve que c'est excessif.
Bien sûr, bon,
on doit pouvoir réguler davantage les gens qui n'ont pas...
Et
si. Parce que ça prend des places dans les prisons.
Non, non, mais on ne met plus en prison pour un délit financier.
Non, mais nous sommes obligés de nous arrêter ici pour aujourd'hui. Charles Villeneuve, vous me regardez, qu'est-ce que vous vouliez me dire?
Je voudrais rappeler quand même la phrase d'Olivier Guichard, grand baron du gaullisme, qui quitte la place Vendôme, c'est-à-dire le ministère de la Justice, en 1977, et qui, dans le journal du Monde, à la question... qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience comme garde des Sceaux, et qui répond de ne jamais avoir affaire à la justice de ce pays.
Ça sera le mot de conclusion. Merci Charles Villeneuve, merci Michel Cotta, merci Catherine Ney, merci Gérard Carrérou. Ce débat des grandes voix, vous pouvez le réécouter sur europe1.fr en podcast. Merci à Julien Blanc pour la réalisation et à Capucine Patouillet pour la préparation de cette émission. Tout de suite, la table des bons vivants. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix. Alors oui, c'est les vacances, c'est vrai qu'entre les congés, le télétravail et le couvre-feu, il y a beaucoup de monde à la maison, et bien on va occuper tout le monde justement en cuisine avec le chef Julien Dubouet, et puis la bonne vivante Estelle Denis viendra partager un beau tagine avec nous. Bah voilà, il y aura du rap si vous voulez, à tout de suite.
Oh, on veut bien, merci, à tout de suite.
Europe 1.